Alors, bonjour à tout le monde. Nous approchons actuellement rapidement de la Pâque, qui est le point de départ du cycle annuel des merveilleuses fêtes de Dieu, des fêtes que Dieu lui-même révèle dans sa parole. Il dit, voici quelles sont mes fêtes. Alors, on a l'immense bonheur de connaître quelles sont ces fêtes-là, de les célébrer chaque année, c'est un cycle, et de s'approcher de Dieu de cette façon-là. Et à ce moment-ci de l'année, on commence déjà à réfléchir au sens profond de l'occasion la plus solennelle de l'année, qui est la cérémonie de la Pâque. La cérémonie de la Pâque. Ça représente un événement magistral, d'une valeur infinie et en même temps, un événement qui a une portée éternelle. Parce qu'écoutez, c'est la porte ouverte pour ceux qui sont appelés à mesure qu'ils le sont, c'est la porte ouverte vers l'obtention de la vie éternelle, vers la nouvelle naissance dans la famille de Dieu au moment de la résurrection. Et ça représente le fait que le Créateur lui-même, c'est pas peu de chose, là, le Créateur lui-même a accepté de donner sa vie, de mourir pour ses créatures, pour sa création. Alors, on prépare la Pâque, on prépare les fêtes du printemps, mais on prépare la Pâque de plusieurs façons. Vous le savez, ceux qui sont là depuis quelques années, on refait la même approche chaque année. Et c'est toujours nouveau parce qu'on doit aller plus loin. On approfondit avec l'aide de Dieu. On change au cours de l'année avec l'aide de Dieu. On est rendu plus loin. Et ce faisant, Dieu nous en donne davantage à mesure qu'on le cherche. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on prépare les fêtes du printemps. Alors, on prépare ça de plusieurs façons, vous le savez, en étudiant les textes pour approfondir puis mieux comprendre le sens de la Pâque puis le sens des fêtes. Et c'est très bien qu'on fasse ça et qu'on le refasse année après année. On se prépare aussi en s'examinant pour voir qu'est-ce que j'ai encore à changer, Père. Il y a des choses que j'ai réussi cette année à changer à cause de ta force parce que tu m'as aidé. Merci. Maintenant, j'ai encore des choses à changer. Et là, on peut lui en parler. Et on peut lui demander son aide pour nous aider à régler ces choses-là aussi, pour nous purifier de plus en plus. Ça, il faut le faire. Donc, une autre façon de se préparer à la Pâque, c'est de s'examiner. Une autre façon aussi excellente, c'est de jeûner. Parce qu'en jeûnant, on humilie notre âme devant Dieu, on reconnaît notre impossibilité à arriver à vivre selon ses lois parfaitement, puis on reconnaît qu'on a besoin de lui pour ça. Et Dieu ne demande pas mieux que de nous aider. Alors, ça nous aide à nous rapprocher de lui, et à ce moment-là, on peut lui demander de nous donner encore de nous repentir, par sa bonté. Parce que c'est lui qui nous donne de nous repentir. Puis, en faisant ces études-là, en s'examinant, en revoyant les Écritures, les brochures sur les fêtes, les articles, à ce moment-là, on apprécie encore davantage le merveilleux plan de Dieu pour le salut de l'humanité, pour amener les êtres humains un jour à faire partie de sa famille, de la famille de Dieu régnant sur la terre. Et ça, ça fait rêver. Ça fait rêver. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Il faut aller plus loin que ça. Et voilà pourquoi je vous donne le message d'aujourd'hui. Parce qu'il faut considérer Jésus-Christ lui-même. Dans notre préparation, là. Il faut considérer le Christ. Il faut penser à lui en tant que notre sauveur personnel. Et ça, ça va nous aider à nous préparer et à vraiment nous approcher et de Dieu et de notre grand frère, le plus vieux de la famille de Dieu, l'aîné. Considérez Jésus-Christ lui-même en préparant la Pâque. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Vous le savez par les textes. La pierre angulaire du plan de Dieu. C'est celui, comme la Bible dit, par qui et pour qui ont été créées toutes choses. Lui et Dieu le Père ont décidé de la création longtemps avant que ça se fasse. Et il a été décidé entre eux, qui ont toujours été en parfaite harmonie, que ça allait être le Christ qui allait procéder à créer toute la création qui existe, puis à donner la vie aux êtres humains. Alors, c'est lui par qui et pour qui tout a été créé. C'est lui qui est le commencement et la fin, comme dit la Bible. D'ailleurs, le Christ se présente lui-même en disant « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et ça, c'est la première lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, je suis le commencement et je suis la fin. Quand vous entendrez cette expression-là, « Je suis l'alpha et l'oméga », ça veut dire « Je suis tout ». ».« Je suis le plan de Dieu ». On peut le mettre dans ces termes-là. Le Christ, votre sauveur personnel, c'est celui dont Jean-Baptiste a dit, lorsque le Christ s'est approché de Jean-Baptiste et des disciples de Jean-Baptiste, vous savez qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit à son sujet? Il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » C'est la première phrase qu'il a dit quand officiellement le Christ s'est approché de lui et de ses disciples. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et si vous y pensez comme il faut, dans cette simple phrase-là, il y a tout le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Voici l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour ôter les péchés du monde. Et dans le même sens, quand vous voyez dans 1 Corinthiens 5, verset 7, vous pourrez aller voir 1 Corinthiens 5, verset 7, l'apôtre Paul dit, « Le Christ, notre Pâque. » Le Christ, notre Pâque. Et c'est le titre de mon sermon aujourd'hui. Le Christ, notre Pâque. Parce qu'il est notre Pâque. Il est la Pâque. Il est l'agneau sacrifié. Il est l'agneau pascal, envoyé pour mourir à notre place, pour payer l'amende de nos péchés, à mesure que nous nous repentons de nos fautes. Il est la Pâque. C'est pour ça que Paul dit, le Christ, notre Pâque. Et le but du message aujourd'hui, c'est de préparer la Pâque en pensant que Jésus-Christ est votre sauveur personnel. Ça devient un lien très intime et une appréciation très intime pour ce que votre Créateur a fait pour vous personnellement. Et en mettant le Christ au centre de notre préparation des fêtes du printemps et de la Pâque, on développe un plus profond sentiment d'appréciation qu'on doit avoir pour le Christ lui-même, pour cet agneau de Dieu, pour le sacrifice immérité de notre part, puis un sacrifice inimaginablement grand. Lui qui est le fondement du plan de salut de Dieu, pour nous qui sommes appelés maintenant, et pour les autres qui vont être appelés éventuellement. Vous irez voir dans Jean 14 et le verset 6, Jean 14 et le verset 6, le Christ a déclaré à propos de lui-même, Jean 14 et le verset 6, et ça c'est encore une écriture vraiment fondamentale, de base. Le Christ s'est présenté en disant ceci, « Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est puissant comme déclaration si on s'y arrête un peu. Je suis le chemin. Donc, il y a un seul chemin par lequel on peut aller au trône de miséricorde de notre Père. C'est par Jésus-Christ, notre Pâque, qui s'est offert pour nous. Le Christ est la seule et unique voie d'accès au trône de miséricorde de Dieu et notre seule et unique voie d'accès pour notre entrée dans la famille de Dieu, pour naître un jour dans la famille de Dieu, pour obtenir le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre possibilité. Voyez-vous pourquoi je donne ce message-là aujourd'hui pour qu'en préparant la Pâque, on garde l'attention sur le Christ lui-même aussi, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il est, sur le rôle qu'il continue à jouer aussi dans l'Église puis dans chacune de nos vies personnelles. Quand on examine les Écritures à ce sujet-là, on voit que pour les premiers chrétiens et pour les apôtres originaux, cette grande réalité-là, là, le Christ lui-même en tant que sacrifice, cette grande réalité-là, elle est essentielle et elle était constamment présente à l'esprit des apôtres et des premiers disciples. Eux autres avaient été témoins de la prédication du Christ. Ils avaient été témoins de ses souffrances et de sa crucifixion. Et ils avaient compris l'importance de cet événement majeur-là, de la Pâque qui s'était réalisée sous leurs yeux, alors que le Christ a été mis en croix et qu'il est mort en croix selon les prophéties, selon ce qui avait été décidé par Dieu et par le Christ, et selon ce qui avait été prophétisé dans les textes. Allez dans Acte 2. Acte chapitre 2. Je vais vous montrer par quelques passages comment cette grande réalité-là, le Christ, notre Pâque, le Christ, le sacrifice de Dieu pour moi personnellement, comment cette grande réalité-là était présente dans l'esprit des disciples. Et on le voit tout au long des textes. Mais on peut voir cet aspect-là et ça devient évident. À la première Pentecôte du Nouveau Testament, quand l'Église de Dieu a commencé, vous savez, dans le contexte qu'on va lire ici, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, est sorti puis a donné son premier sermon, ou son premier grand discours public, si vous voulez. Et il s'est adressé à ce moment-là aux Juifs. Question. De quoi est-ce qu'il a parlé en particulier? Et sur quoi est-ce que l'apôtre Pierre, dans son premier sermon aux Juifs qui étaient là, a-t-il parlé? Sur quoi a-t-il mis l'accent? Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, il s'adressait aux Juifs, mais ça s'adresse à nous parce qu'on l'a tous crucifié, le Christ. Mettons cette parenthèse-là pour se situer dans le contexte également. Mais regardez ce que Pierre leur dit à ce moment-là. Il dit, « Celui que vous avez tué, c'est le Messie de Dieu, c'est le Sauveur de l'humanité. » On pourrait le mettre en d'autres termes comme ceci. « Dieu a fait maître, c'est-à-dire Seigneur. » On peut reprendre le texte. Verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur, c'est-à-dire Maître, et Christ, c'est-à-dire Oint ou Messie, son envoyé, ce Jésus, et le nom Jésus, Yeshua, en hébreu, veut dire Sauveur, ce Sauveur que vous avez crucifié. Voici l'agneau pascal, autrement dit. Alors, si je le mets en ces termes-là, pour résumer ce que Pierre leur dit, il leur dit, « Dieu a fait maître et messie, ce sauveur de l'humanité que vous avez crucifié. » Le Christ, notre Pâque. Alors, Pierre a commencé son premier sermon puissamment en mettant l'accent sur le Christ en tant que sauveur de l'humanité. Et tout au long du livre des Actes, on voit que les vrais apôtres ont constamment mis l'emphase sur le fait que Jésus-Christ est notre Sauveur. Pierre a encore fait la même chose. Allez à Acte 10, un peu plus loin. Acte chapitre 10. Ici, le contexte, c'est le premier sermon que Pierre a adressé à des non-juifs, à des gentils ou à des non-juifs, si vous voulez. Et le contexte de ça, c'est que il y a un centenier qui était en charge de 100 soldats romains, qui avait eu une vision comme de quoi un ange du Seigneur allait le voir et tout ça. Dieu préparait dans ce cas-là, avec ces grands miracles-là, le fait que cet homme-là et sa famille allaient être appelés. Puis au même moment, il donnait à Pierre une vision comme de quoi il devait aller chez un non-juif, ce qui était pas possible pour un juif à l'époque parce qu'ils ne se mêlaient pas ensemble. Mais Dieu est en train de montrer à Pierre que là, il commençait à appeler des gens qui n'étaient pas israélites. OK? Alors, ça a été tout un événement. Mais ça, c'est le contexte. Alors, Pierre avait eu la vision qu'il devait se rendre chez quelqu'un pour lui annoncer l'Évangile. Et ce quelqu'un-là, qui n'était pas juif, avait reçu une vision comme de quoi quelqu'un viendrait le voir pour lui annoncer la vérité. Alors, ici, on se retrouve dans ce contexte-là, verset 34, acte 10. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, et qui pratique la justice, lui est agréable. » Alors là, Pierre, il dit, « Moi, je viens de comprendre, avec ce que Dieu vient de me faire vivre, que les non-juifs sont aussi appelés à faire partie de l'Église de Dieu. » Alors, c'est ce qu'il leur déclare en arrivant chez Cornélius. « Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Alors Pierre dit ce qui est arrivé aux Juifs, à Israël. Il dit Dieu leur a envoyé Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. OK? Qui est le maître de tous. Alors, sur quoi et sur qui est-ce qu'il met l'accent? Dans son premier sermon aux non-juifs, encore sur le Christ, en tant que maître et Seigneur. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force sur Jésus-Christ de Nazareth et ainsi de suite. Et il continue. Et il dit que il a fait beaucoup de bien par lui en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable et ceux qui étaient malades, car Dieu était avec lui. Verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué. Alors, il exprime ici que le Christ a été le sacrifice offert. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Alors, il témoigne de ce qui est arrivé après sa résurrection. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors, si vous mettez ça ensemble ici, c'est encore le titre du sermon et c'est encore la petite phrase de Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Exactement la même chose. Le Christ, notre Pâque. Là, Pierre est en train d'expliquer à Cornelius et à sa famille le rôle essentiel, fondamental du Christ dans le plan de Dieu. Allez à Actes 16 maintenant. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Ici, pour vous situer dans le contexte, Paul et Silas venaient d'être emprisonnés dans la ville de Philippe. Il y a eu cette nuit-là un grand tremblement de terre, et ça décrit dans le texte que les portes de la prison se sont toutes ouvertes. OK, Dieu a manifesté son intervention et sa grande présence. Alors, à ce moment-là, le chef des gardes, le geôlier qui était en charge, était très inquiet, il voulait même se suicider, parce que lui était responsable des prisonniers qui étaient là. Et là, si ces prisonniers-là sortaient, lui en répondait de sa vie. Et c'est pour ça qu'il allait mettre fin à ses jours, lui-même, au lieu que d'être tué par les autorités romaines. Alors, voyez ce qui se passe à ce moment-là, verset 27 de Luc 16. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Vous, on voit que Dieu appelait cet homme-là parce qu'il était déjà disposé à comprendre ce qui arrivait. Puis il comprenait qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui se passait là et que lui avait quelque chose de spécial dans sa vie qui était en train d'arriver. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et possiblement qu'il avait entendu aussi les prédications du Christ et des disciples avant, où il avait entendu parler de ce que les apôtres avaient prêché, parce qu'il parlait du salut. Il en avait entendu parler, voyez-vous? Alors, regardez la réponse de Paul et Silas. Paul et Silas répondirent, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, au Maître Joshua, au Maître Sauveur, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Voyez-vous, on revient encore à la même chose. Le Christ, notre Pâque. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Le seul agneau de Dieu, la seule voie par laquelle on peut être pardonné, avoir accès au trône de miséricorde, être lavé de nos fautes, recevoir le Saint-Esprit et naître un jour dans la famille de Dieu. Allez plus loin. Actes, chapitre 17 maintenant. Actes, chapitre 17. On sait qu'ici, Paul est allé dans la ville de Thessalonique. Puis on voit dans ce passage-là que pendant trois sabbats de suite, il a prêché dans leur synagogue. Il a prêché dans leur ville. Qu'est-ce que Paul a prêché dans cette ville-là lors de ces trois sabbats. Acte 17, versets 2 et 3. Paul y entra, selon sa coutume, dans la synagogue. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, pas ce que Paul pensait, mais ce que les Écritures disaient, expliquant et établissant quoi? Que le Christ, c'est-à-dire le Messie, l'envoyé de Dieu, devait souffrir, devait être l'agneau de Dieu, devait être la Pâque, et ressusciter des morts ensuite. Voyez-vous? Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est l'envoyé de Dieu. Le Christ sauveur, notre Pâque. Le Christ sauveur, notre Pâque. Allez plus loin maintenant, à Actes, chapitre 28. Actes, chapitre 28. Paul a toujours annoncé, dans le fond, la même chose. Bien sûr, il a ajouté, il a expliqué des choses par rapport à l'Évangile et tout ça, mais le fondement apparaissait toujours, le fondement de l'Évangile apparaissait toujours dans ce que Paul expliquait. C'est important que nous, on le voit, parce que ça nous donne l'importance que le Christ doit avoir dans nos pensées puis dans notre reconnaissance lorsqu'on approche des fêtes du printemps. Si c'était si important que ça dans l'annonce des apôtres, ça doit l'être pour nous qui sommes membres de l'Église, qui sommes les rachetés, qui sommes les pardonnés et qui allons entrer dans les merveilleuses fêtes du printemps et qui allons, pour les baptisés, prendre la Pâque une fois de plus grâce à notre Seigneur, grâce à notre Sauveur. Alors, jusqu'à la fin de sa vie, Paul a prêché la même chose, il a mis l'accent sur le Christ en tant que notre Pâque, notre Sauveur. Acte 28, verset 30. À la toute fin de sa vie, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il était comme en résidence surveillée à ce moment-là, avant d'être mis à mort. Alors, il recevait tous ceux qui venaient le voir. Et on voit comment Dieu, je fais juste une parenthèse, on voit comment Dieu est puissant. À travers des circonstances qui auraient pu être tout à fait décourageantes, difficiles à comprendre à l'œil humain, un ministre de Dieu, un apôtre de Dieu qui avait été enseigné même directement par le Christ lui-même, qui se retrouve en résidence surveillée, pas capable de se déplacer, alors qu'il va être mis à mort bientôt, et il le savait, il l'avait dit aux membres d'Église pas longtemps avant. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu se sert de ça pendant 2 ans pour que plein de monde aille là où Paul se trouvait pour être enseigné la vérité de Dieu. Voyez-vous comment Dieu est puissant? À travers des circonstances qui peuvent sembler contraires ou qui ne sont pas intéressantes pour l'être humain ou les êtres humains impliqués, Dieu accomplit son plan. Et ceux qui font sa volonté sont amenés à terme de bonne façon. Et regardez ce qui sort de tout ça ici. Alors, je ferme la parenthèse maintenant. Alors, 2 ans, Pierre a demeuré dans cette demeure qui avait été louée, les gens allaient le voir. Qu'est-ce qu'il faisait? Verset 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Voyez-vous, il annonçait le royaume, mais tout ce qui concerne Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le roi de ce royaume-là. Et si ce royaume-là est rendu possible, c'est parce qu'il y a d'abord eu, au début du plan de Dieu, le sacrifice de l'agneau qui s'est donné lui-même. Voyez-vous, même à la fin de sa vie, on voit que Paul, dans ses enseignements, gardait le cap là-dessus en rendant gloire, en rendant honneur au Christ qui est notre Pâque. Comprenez-vous plus pourquoi maintenant je vous donne le sermon d'aujourd'hui, alors qu'on approche des fêtes du printemps, puis alors qu'on approche de la Pâque? Par son sang versé, le Christ est notre seule voie d'accès au trône de miséricorde de Dieu. Notre seule voie d'accès pour être pardonné de nos fautes, pour être lavé de tous nos péchés et de ce que nous sommes de mauvais, en acceptant de tout cœur sa mort à notre place personnellement, en marchant avec lui, animé par le Saint-Esprit qui nous donne, parce que c'est lui qui nous donne la force de le faire. Et de comprendre et d'être capable de le faire graduellement. Il ne faut pas se décourager, c'est graduel, mais il faut faire tous nos efforts, par exemple, ne pas être négligent. Allez maintenant à Apocalypse, s'il vous plaît, le chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. Et on va voir une scène grandiose ici qui est décrite se passant dans la salle du trône de Dieu, dans les cieux. Un endroit qu'on ne peut pas voir en tant qu'être humain, mais qui est décrit ici avec des mots qu'on peut comprendre un peu, mais qui doit être fantastique. Des fois, je dis ça dans mes prières à Dieu, je dis, ça doit être beau dans la salle de ton trône. Ça doit être beau. On voit des beaux paysages, on voit parfois des beaux décors que les gens ont le talent de faire et tout ça, mais quand il décrit ce qu'il y a dans la salle du trône avec la mer de verre devant son trône, avec les couleurs de l'arc-en-ciel derrière son trône, avec plein de choses extraordinaires, c'est des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil humain, mais ça doit être tellement beau. Alors, c'est dans ce contexte-là ici. Dieu a donné au vieux Jean, à la fin de sa vie, de voir ce qu'il devait voir en vision pour écrire le livre d'Apocalypse. Et maintenant ici, le Père lui-même met l'accent sur le Christ en tant que sauveur, sur son Fils en tant qu'agneau immolé dans ce passage-là ici, dans cette vision-là que Jean a eue. Apocalypse, commençons au verset 1, tiens. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, donc du Père, de l'autorité suprême de l'univers. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. » Alors, c'était des rouleaux écrits sur les deux côtés et c'était scellé de 7 sceaux. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je n'entrerai pas là-dedans, mais vous savez, par ce que l'apôtre Jean décrit après, que ces 7 sceaux-là représentent des étapes d'événements qui vont très, très bientôt se passer sur la terre. Et c'est une révélation pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver, comme c'est marqué au début du livre d'Apocalypse, dans les premiers versets. OK. Alors, Jean dit, dans sa vision, « Je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. » Qui est venu en tant qu'être humain, en tant que faible être humain, qui a donné sa vie pour nous et qui a vaincu Satan, qui a vaincu le monde de Satan, qui a vaincu la nature humaine et qui a été victorieux de ça? C'est l'agneau de Dieu. Le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, parce qu'au trône, on n'a pas de précision sur ces êtres vivants-là, mais c'est des êtres qui ont été créés, bien sûr, parce que tout a été créé, sauf le Père et le Fils. Il y a 4 êtres vivants qui jouent un rôle particulier qu'on ne sait pas pour l'instant. Il y a 4 êtres vivants. Alors, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, parce qu'il y a aussi 24 vieillards, donc des gens qui ont été créés très anciennement. Ils ne sont pas... disons, l'âge humain que nous connaissons et qui nous atteint en nous rendant plus faibles et plus hésitants ou plus lents, c'est pas le cas. C'est vieux dans le sens de ancien. Alors, au milieu des vieillards, il y avait un agneau qui était là comme immolé. C'est quoi cet agneau-là? C'est l'agneau de Dieu qui était là comme immolé. Et regardez le verset 7. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Voyez-vous, parce que l'agneau est Dieu aussi. Il est Dieu de toute éternité. Et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards sont des êtres créés qui adorent leur Créateur. Alors, ils se sont prosternés devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums. Et ça, c'est beau ici. Remplies des parfums qui sont les prières des saints. C'est intéressant. À ce moment-là, au moment d'ouvrir les sceaux, il y a des êtres spirituels à côté du trône qui offrent à Dieu toute une série de prières qui ont été faites par les fils et les filles de Dieu, sans doute au cours de l'histoire, en prévision de ce temps-là, ou pour des êtres en particulier et tout ça. Et ils offrent à ce moment-là au Dieu de l'univers ces prières précises-là. On ne donne pas de détails là-dessus, mais c'est formidable, ça a un rôle à jouer. Alors, ces gens-là présentent ces parfums-là qui font plaisir à Dieu, les prières de ses enfants. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu, le Christ, toi l'agneau, la pierre angulaire, le rocher des siècles, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu, pour le Père, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre au moment où l'agneau viendra établir son royaume. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des millions, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, regardez bien, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. » Quand je vous disais tantôt, et Dieu l'a voulu ainsi, que le Christ soit le pivot de son plan, soit le fondement, la base de tout le plan de salut pour l'humanité. Lui pour qui et par qui avait été créé toute chose. Lui qui avait créé ces créatures-là, a donné sa vie pour ces créatures-là. Alors, Dieu inspire ici que son Fils reçoive la louange et la gloire, et qu'on le considère dans les fêtes. C'est pour ça que je parle de cette façon-là aujourd'hui, que je vous donne le message que je vous donne aujourd'hui. À nous de marcher avec lui, de compter sur son Saint-Esprit. Mais le Père lui-même met l'accent sur son Fils en tant qu'agneau immolé. Voyez-vous un peu plus pourquoi, en nous préparant pour la Pâque, il faut considérer aussi le Christ lui-même. Le Christ lui-même, mon grand frère qui a soin de moi, qui a ouvert le chemin pour moi, qui m'a pris alors que j'étais ennemi. Le Christ m'a accueilli quand le Père m'a attiré à lui, comme ça se passe quand Dieu attire quelqu'un au Christ, qui m'a pris dans ses bras et qui m'a soutenu avec patience, avec miséricorde, qui m'aide encore. On peut voir aussi pourquoi Paul en parlait si souvent. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Je vous ai donné quelques exemples tantôt où les apôtres parlait de ce thème souvent, et j'ai montré que Paul en parlait souvent aussi, et on voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, aux deux premiers versets, encore la même chose dans la bouche de Paul. C'est tellement fascinant de voir approcher les fêtes du printemps sous cet angle-là. Moi, ça m'a très, très nourri, encouragé, réjoui de préparer ce message-là, parce que j'en ai été nourri. Beaucoup aussi, puis ça me donne une dimension que je dois développer pour bien préparer la Pâque, avoir de la reconnaissance pour mon Sauveur, puis penser à ce qu'il a fait pour moi. Regardez ce que Paul dit ici, 1 Corinthiens 2, verset 1 et 2. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. » Autrement dit, il dit « Voici ce dont je vous ai parlé, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Le Christ, notre Pâque. Voyez-vous comment ça revient? Si on le regarde comme il faut, les textes de proche, sous cet angle-là, on voit que ça revient avec beaucoup de force, ce thème, ce même thème-là. Le Christ crucifié, le Christ, notre Pâque, le Christ, notre Sauveur. Paul avait toujours à l'esprit le fait, comment je dirais, grandiose et précieux, que le Christ, dans des souffrances atroces, était mort à sa place, comme il est mort à votre place et à ma place. Pour lui, pour que Paul puisse se repentir, qu'il puisse changer avec l'aide de Dieu, qu'il soit baptisé, qu'il reçoive le Saint-Esprit et qu'il soit guidé ensuite par son Saint-Esprit. Et c'est la même chose pour nous, pour tous ceux que Dieu appelle à mesure que Dieu les appelle. Et là, vous allez comprendre encore plus puissamment pourquoi Paul dit dans Galates 2, 20, vous connaissez ce passage-là parce que M. Meredith le ramène régulièrement dans ses sermons et pour lui, c'est son passage favori. Et dans le fond, en faisant ça, il fait exactement comme Paul, et il fait exactement comme les apôtres originaux qui mettaient l'accent sur le Christ en tant que sauveur. Dans Galates 2, verset 20, il est écrit... et c'est Paul qui parle, j'ai été crucifié avec le Christ. Pas parce que Paul était physiquement là à ce moment-là et que Paul avait été mis en croix, mais la pénalité que Paul avait pour ses fautes, l'amende que Paul avait à payer pour ses propres péchés, ça a été crucifié sur la croix au moment de la mort du Christ, qui a payé pour les amendes, pour l'amende des fautes commises par chacun des êtres humains. Et c'est pour ça que l'appel, il est individuel. Le repentir est individuel. Le cheminement, il est individuel. Et notre relation avec Dieu et avec le Christ doit être une relation vraiment individuelle. On doit le voir comme ça. Bien sûr, on est une famille. Mais chaque membre de la famille a une relation privilégiée, merveilleuse, avec le papa de la famille, puis avec le plus vieux, avec l'aîné de la famille. Ça, c'est la réalité. Alors, Paul, il dit que j'ai été crucifié avec le Christ. Il est mort pour moi. Et mes péchés ont été cloués à la croix. Et si je vis, regardez, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oui, parce que j'ai laissé le vieux Paul dans la tombe liquide du baptême. Ou lorsque vous avez été baptisé, vous pouvez mettre votre nom, vous avez laissé votre ancienne vie dans les eaux de la tombe liquide du baptême au moment où Dieu vous a lavé entièrement de toutes vos fautes passées par le sang du Christ. Et là, vous pouviez dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sorti des eaux du baptême, le ministre de Dieu vous a imposé les mains, comme la Bible nous montre, afin que Dieu vous donne son Saint-Esprit en vous. Avant ça, le Saint-Esprit était avec vous, vous permettant de comprendre des choses divines, vous permettant d'avancer jusqu'à un certain point. Mais maintenant, Dieu a placé en vous sa présence, sa puissance, et le Christ est là, présent en vous, qui est un homme nouveau ou une femme nouvelle, parce que l'homme ancien est resté dans les eaux du baptême. C'est une personne nouvelle. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et il dit après ça, si je vis maintenant dans la chair, parce qu'on n'est pas encore transformé totalement en être spirituel, si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu maintenant. Ce n'est pas par ma petite foi à moi, ou mes croyances à moi, ou mes suppositions, ou mes idées, ou les idées humaines. Non, il dit que je vis maintenant par la foi du Fils de Dieu. Et regardez ce qu'il ajoute après, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Il s'est livré lui-même pour moi à ce sacrifice-là pour que moi, je sois lavé de mes fautes et que j'ai accès à être pardonné puis accès à la vie éternelle. C'est fantastique. Quand vous mettez tout ça ensemble, ce que Paul a dit et les autres ont dit, vous voyez davantage ressortir l'importance du Christ lui-même en tant que notre sacrifice volontaire. La grandeur de ce sacrifice-là. Le rôle que ça a joué et que ça joue dans votre vie encore actuellement. Mettons ça dans d'autres mots. Le Sauveur qui agit, ça revient à ça. Lorsqu'une personne est appelée, qu'elle se repent, qu'elle est baptisée, qu'elle reçoit le Saint-Esprit, elle devient une personne nouvelle, son vieux moi est parti. Et à ce moment-là, le Sauveur vit dans celui qui est en train d'être sauvé. Mettons ça de même, puis je trouvais que ça mettait une belle image. À ce moment-là, quand on est baptisé, qu'on sort des eaux du baptême, là, le Sauveur commence à vivre dans la personne qui est en train d'être sauvée. Elle n'est pas encore rendue au bout. Il faudra qu'elle tienne bon. Il faudra qu'elle persévère jusqu'à la fin, comme la Bible mentionne. Mais le Christ, le grand vainqueur de Satan, du monde de Satan, de la nature humaine, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement, il est dans la personne. Et là, nous, on doit apprendre à compter sur lui, à dire, Jésus, il faut que tu combattes mon combat pour me débarrasser de telle mauvaise habitude ou de tel travers que j'ai, ou ainsi de suite. Et là, le Christ va agir. Mais il faut qu'on travaille avec lui, qu'on se soumette à lui dans ce sens-là. Mais le phénomène qui se passe, j'essaie de mettre des mots qui imagent un peu la chose, c'est que le Sauveur, à ce moment-là, vit et agit dans celui qui est en train d'être sauvé. Ou, mettons-le dans d'autres termes, le Créateur miséricordieux qui vit dans celui qui continue de se repentir. Le Créateur rempli de miséricorde qui vit dans celui qui demande pardon puis qui continue de se repentir. Et le Créateur miséricordieux fait ça pour donner à cette personne-là la victoire sur ses faiblesses, sur Satan, sur le monde de Satan. La même chose que le Christ a déjà vaincu. Il va le faire en vous et en moi si nous tenons bon. Il l'a déjà fait, il va le faire. Et il va nous imprégner de son caractère et il va nous conduire vers quoi? Vers la vie éternelle, vers le salut. Rappelez-vous, vous avez cité une des phrases que le Christ a dites pour s'identifier. Et ça l'identifie de façon magistrale. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Je suis la seule porte d'entrée à ce trône de miséricorde qui est dans le ciel, au Père. Et je suis celui qui peut vous donner la victoire en vivant en vous, si vous vous soumettez à moi. C'est le Christ qui parle, bien sûr. Alors, je vais plus loin. Le vrai christianisme, ça ne se limite pas seulement à observer la loi. Peut-être que je vais vous surprendre un petit peu, mais je vais expliquer. Le vrai christianisme, ça ne se limite pas seulement à observer la loi. On doit aller beaucoup plus loin. On doit aller beaucoup au-delà du fait de simplement observer la lettre et l'esprit de la loi. On doit même aller plus loin que ça. Parfois, on dit qu'il faut aller plus loin qu'observer la lettre de la loi. Oui, c'est vrai. Mais il faut aller plus loin qu'observer la lettre et l'esprit. Soyez pas inquiètes, c'est possible. J'arrive pas avec quelque chose d'impossible, au contraire, vous allez voir. Et c'est drôlement encourageant. Mais il faut en être conscient, puis il faut faire ce chemin-là. On doit aller beaucoup au-delà de ça. On doit aimer Dieu, hein, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Il est en premier dans notre vie. Il nous a appelés, il nous a montré le vrai sens de la vie, le vrai but de l'existence humaine, ce qui nous attend, ce qui attend l'humanité, la chose la plus grandiose et merveilleuse, au-delà des problèmes et des situations difficiles actuelles. Alors, on doit aimer Dieu, mais ce que on doit faire pour aller plus loin que l'observance de la loi dans la lettre et dans l'esprit, c'est de développer une profonde appréciation. De développer une profonde appréciation pour le fait d'avoir été pardonné. Pour le fait d'avoir été pardonné de nos fautes passées grâce au sang versé par Jésus-Christ, notre Pâque. Voyez-vous, parce que c'est de là que ça vient, c'est ça qui rend possible le fait qu'on soit libéré de la pénalité de toutes nos fautes. C'est ça qui rend possible que graduellement on observe de mieux en mieux la loi et dans la lettre et dans l'esprit. Mais il faut avoir cette admiration-là pour le Sauveur qui rend tout ça possible. C'est grâce à son sang versé, lui qui est le seul chemin, la seule voie d'accès. Et ça, on doit le réaliser, je dirais, de plus en plus. C'est intéressant parce que on est dans une marche en progression. Remarquez bien, on apprend, plus les années passent, à comprendre le plan de Dieu, à connaître Dieu le Père, à connaître Dieu le Fils, et à développer des rapports plus étroits et avec le Père et avec le Fils, parce que bientôt, on va rencontrer face à face, les yeux dans les yeux, notre Pâque de Christ lui-même, quand il va revenir sur la terre. Plus tard, on verra le Père. Mais le premier des deux êtres divins qui existent et que nous allons rencontrer directement, ce sera le Christ. Alors, c'est comme si Dieu nous donnait de plus en plus de comprendre le Christ, de le voir occuper la place qu'il doit occuper, de l'apprécier, de le remercier, de l'adorer en préparation de ce qui vient. En préparation de ce qui vient. On doit réaliser de plus en plus et jusqu'à totalement que c'est seulement grâce au Christ vivant sa vie en nous que nous devenons capables d'observer les lois de Dieu comme il se doit. Autrement, c'est notre justice humaine. Et on peut se vanter d'observer les lois de Dieu comme les pharisiens se vantaient d'observer les lois de Dieu. Hein? Même il allait plus loin que les lois de Dieu demandaient pour se glorifier en faisant ça. Alors ça, c'est l'aspect humain des choses. Mais on doit vivre selon la justice de Dieu. On doit revêtir le Christ, revêtir la justice de Dieu. C'est pourquoi que même dans l'observance de la loi, même en observant les lois de Dieu, Oui, on apprécie que Dieu nous les ait montrés et tout ça, mais notre attention doit être encore centrée sur le Christ qui rend ça possible. Et qui va continuer à le rendre possible si on reste en rapport étroit avec lui et qu'on reste soumis à sa volonté. C'est uniquement par le Christ vivant sa vie en nous, par son Saint-Esprit, qu'on devient capable d'observer la loi. Ce que Dieu va accorder à tout le reste de l'humanité, une fois que le Christ sera revenu d'ici quelques brèves années sur la terre pour établir son gouvernement, Dieu va lever le voile, comme on voit dans certaines prophéties, et Dieu va leur donner son Saint-Esprit, va d'abord montrer sa bonté envers eux pour leur donner de se repentir, et après va leur donner son Saint-Esprit pour les rendre capables de comprendre et d'observer sa loi. Le Christ a d'ailleurs décrit ce phénomène merveilleux dans Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Regardez ce que le Christ dit. Il dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Alors, c'est clair, c'est une définition, on ne peut pas avoir plus simple. Aimer le Christ, ça veut dire garder sa parole, faire ce qu'il a dit, tout simplement. « Et mon Père l'aimera. » Voyez-vous leur relation très étroite, un avec l'autre? Écoutez, ils ont toujours été ensemble, de toute éternité. Il dit, « Mon Père l'aimera. » Et nous viendrons à lui. Et regardez comment c'est beau. Et nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire, nous allons mettre notre esprit, notre puissance, notre présence dans cette personne-là. Il va devenir le temple du Saint-Esprit. Nous allons habiter en lui, mon Père et moi, par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez comment c'est beau, comment c'est touchant de voir comment le Christ exprime ces choses-là. Alors, il nous faut totalement apprendre à compter sur le Christ pour nous aider à faire ce que nous devons faire. Et c'est seulement par la puissance de notre Père et de notre Sauveur Jésus-Christ qu'on peut croître, qu'on peut changer, qu'on peut vaincre. Seulement par eux. Seulement par eux. Il n'y a personne, une fois arrivé dans le royaume, qui pourra se vanter un tant soit peu de l'ombre d'une possibilité d'avoir réussi par lui-même à réaliser quelque chose de spirituel. Absolument pas. Tout va nous avoir été donné par Dieu à travers son Fils, le Christ. Alors, on doit, comprenez-vous pourquoi on doit avoir une relation personnelle très étroite avec le Christ et développer cette relation-là, avec le Père bien sûr, mais avec Jésus-Christ aussi. Et ça a été le cas d'Étienne, le premier martyr. Vous pourrez aller voir dans Actes 7, verset 59, Actes 7, 59. Étienne avait développé avec son Dieu un rapport très étroit. Sa foi était solide. On voit que l'Esprit de Dieu était puissant dans lui. Il a accepté d'aller jusqu'à donner sa vie, lui aussi, pour sa foi, pour ses convictions, pour servir Dieu. Et au moment de sa mort, Étienne a été lapidé. Au moment de sa mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est écrié ceci, Actes 7, verset 59. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté. Ici, il a parlé au Christ directement. Oui, il n'a pas parlé à son Père. Il a parlé au Christ directement. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Ça veut dire qu'il était en relation très étroite, non pas seulement avec le Père, mais avec le Christ lui-même, et il considérait l'importance du rôle du Christ. Bien sûr, on doit surtout et principalement adresser nos prières à notre Père, comme le Christ nous a montré de faire. Il dit « Voici comment prier ». Et on prie Dieu au nom du Christ. Ils sont toujours joints ensemble de façon indissociable, tous les deux. Alors, on adresse des prières surtout et principalement à notre Père, mais ce n'est pas mal du tout, au contraire, de parler parfois directement à Jésus-Christ dans nos prières. C'est un exemple de ça. On peut parler à notre grand frère. Dieu n'est pas jaloux de ça, absolument pas. On peut parler à notre grand frère directement. Lui qui est assis à la droite du Père sur le trône dans les cieux. D'ailleurs, c'est un commandement qui nous est donné, je vais vous le montrer, allez dans Jean chapitre 5, c'est un commandement qui nous est donné qu'on doit honorer Jésus, qu'on doit honorer le Christ, notre Pâque, tout comme nous honorons le Père. Regardez ce que le Père a inspiré Jésus de dire dans Jean 5, versets 22 et 23. Jean 5, versets 22 et 23. Le Christ dit ceci, Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, c'est-à-dire à lui, afin que tous honorent le Fils. Voyez-vous ce que je vous dis? Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Voyez-vous que ce n'est pas une faute que de s'adresser au Christ, de lui parler, de lui dire merci à lui aussi, de nous manifester notre appréciation. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alors, il y a plus que juste le respect ici, il y a le fait de marquer l'appréciation pour le Fils. Et de plus en plus, puis du fond du cœur, on doit honorer le Christ, l'adorer, l'aimer, lui être loyal, puis lui exprimer notre reconnaissance. C'est pour ça qu'en approchant les fêtes du printemps cette année, c'est bon qu'on mette l'accent sur cet élément-là de la Pâque et des fêtes du printemps qui s'en viennent. À chaque saison de la Pâque, c'est le temps pour nous autres d'en profiter pour, je dirais, renouveler notre appréciation pour ce que le Christ a fait dans chacun de vous, dans chacune des vies des êtres qui sont appelés maintenant. Ça, il a déjà fait. Il est mort dans le passé pour ça et il vous a déjà accueilli quand le Christ, quand le Père vous a attiré à lui. Et il a travaillé avec vous depuis ce temps-là. Alors, le Christ a déjà fait beaucoup. On peut le remercier pour ce qu'il a fait. On peut le remercier pour ce qu'il est en train de faire. Lui qui est le chef suprême de l'Église, selon la volonté de Dieu, et qui la dirige comme elle doit être dirigée, et qui met en place les hommes qu'il veut avoir, et qui permet parfois qu'il arrive certaines choses pour tester les uns, tester les autres, et ainsi de suite, mais qui a promis et réalisé que jamais l'Église ne serait détruite, si petite en vienne-t-elle à être parfois à certaines époques. Il avait promis que jamais elle ne serait détruite. Alors, il est en train d'accomplir de grandes choses en tant que notre souverain sacrificateur, en tant que notre chef, chef de l'Église, en tant que notre avocat auprès du Père aussi. Et on peut le remercier aussi pour ce que notre grand frère, qu'on appelle déjà notre grand roi, va faire pour nous tout au long de l'éternité. Quand on aura le bonheur de travailler avec lui pour rebâtir la société et amener un monde enfin paisible, heureux, productif et merveilleux, comme on voit dans la Bible. Peu après la première Pentecôte, après que Pierre a eu fait son premier sermon aux Juifs, il a fait un autre message pas longtemps après dans Acte 3. Acte 3, verset 15, vous pourrez lire de 12 à 15. Et Pierre parle du Christ en ces termes. Il s'adresse encore aux Juifs. Il dit, « Vous avez fait mourir le prince de la vie. » Qu'est-ce que le Christ a dit? « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Alors, il dit aux Juifs, dans ce deuxième sermon qu'il a fait, pas longtemps après la Pentecôte, « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, et nous en sommes témoins. » Il était placé pour être capable d'en parler. Alors, les apôtres originaux avaient un profond et un constant sentiment d'appréciation pour le Christ, pour son sacrifice, pour sa mort, pour sa résurrection. Aujourd'hui, on peut développer le même sentiment. On a les moyens pour le faire. C'est comme si on était là, parce qu'on peut revoir le film de ce qui s'est passé. On peut même entendre les paroles qui ont été dites à ce moment-là par tous les intervenants. Comment? Par l'étude des Écritures. Parce que quand j'étudie ma Bible chaque jour et que j'entre dans le contexte des Écrits, de ce qui est dit, de ce qui est décrit comme étant arrivé, comment ils ont approché les choses, qu'est-ce qu'ils ont annoncé, de quelle façon, à ce moment-là, je me mets dans la même attitude et je suis imprégné des mêmes pensées que ces serviteurs de Dieu-là avaient. Voyez-vous l'importance de l'étude biblique? Alors, je peux me mettre dans les mêmes souliers qu'eux et avoir les mêmes sentiments de reconnaissance envers le Christ qui a donné sa vie également pour moi, comme il l'a donné pour eux. Alors, par l'étude biblique, je peux développer les mêmes sentiments d'appréciation qu'eux avaient. Par des prières chaleureuses aussi, à Dieu, et parfois parler au Christ, et par le jeûne et par la méditation. Voyez-vous, tout ça est encore orienté vers le prince de notre salut, vers le prince de la vie, vers l'agneau de Dieu. Merci à Dieu pour la Pâque. Sans l'agneau de Dieu immolé, nous n'aurions aucun espoir. Aucun espoir. Sans l'agneau immolé de Dieu, il n'y a pas de plan de Dieu. Et il n'y a aucun espoir pour les êtres humains. Merci à Dieu d'avoir été disposé à sacrifier son Fils bien-aimé, son unique, là, quand on y pense, là, d'avoir sacrifié son Fils bien-aimé, son compagnon de toute éternité. Le Christ avait été avec le Père depuis toujours et a accepté de le sacrifier, lui, pour manifester son amour envers nous. Dans Jean 3, verset 16, je pense que c'est écrit, « Le Père a tant aimé les êtres humains qu'il a donné son Fils, son unique, pour payer l'amende de nos péchés. » Voyez-vous? Alors, merci à Dieu d'avoir fait ça. Et merci au Christ de s'être lui-même donné en sacrifice pour qu'on puisse un jour être unis à lui parfaitement et au Père, dans le royaume, dans l'harmonie parfaite de la merveilleuse famille de Dieu qui va administrer d'abord la terre et ensuite le reste de l'univers. Vous savez, on peut avoir une foi absolue, et ça c'est fascinant et c'est encourageant. On peut avoir une foi absolue que nos péchés seront totalement pardonnés si nous nous repentons de nos fautes et si nous continuons à nous repentir de nos fautes. C'est pour ça que chaque année, on fait le ménage physique d'enlever le levain de nos maisons, mais il faut tout au long de l'année enlever le levain spirituel et être sur nos gardes pour le détecter, puis s'en détourner, puis l'enlever avec la force de Dieu. Mais nos péchés peuvent être totalement effacés si on continue à se repentir et si on accepte le sacrifice de Christ avec une profonde reconnaissance. C'est le don total de l'amour de Dieu, la totale miséricorde de notre Créateur. Ça vient de Dieu et ça vient de Dieu seul. Alors qu'on approche la Pâque maintenant, rappelez-vous le fondement du pardon possible. Rappelez-vous le point de départ de tout le plan de Dieu. Rappelez-vous de celui que la Bible identifie comme étant la pierre angulaire de tout l'édifice, de tout ce temple saint de Dieu. De celui qu'on appelle également le rocher des siècles, qui ne change pas, qui est d'une solidité à nul autre pareil. Rappelez-vous de l'agneau de Dieu, le Christ, notre Pâque, comme Paul disait. Alors, préparons-nous à la Pâque puis aux fêtes du printemps avec un cœur repentant en appréciant profondément tout ce que Dieu et le Christ ont fait pour nous. Et approchons-nous de ces fêtes-là dans la conscience joyeuse d'être le peuple des rachetés.